C'est Dédé Chutes. On est sur le salon des scènes, on s'est baladé et on a trouvé un jeu de moutons. Et du coup, je me suis arrêté pour tester ce jeu de moutons parce que comme c'est ma spécialité. Et donc, on est sur le stand de BioViva avec Frédéric. Salut Frédéric.
Salut David.
Ça va? Alors, BioViva, c'est quoi comme maison d'édition? Nous, on connaît pas trop ça en tant que gamer.
Alors, BioViva, c'est une maison d'édition qui a 20 ans. Cette année, on fête nos 20 ans. On fait des jeux sur la nature, le monde vivant et l'épanouissement, le développement personnel de l'enfant. On fabrique nos jeux 100% en France. C'est très important de comprendre ça. Et nos jeux sont évidemment éco-conçus.
Ok, donc ça c'est bien de faire en France. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font ça en France. Ça passe souvent par la Chine. Donc pour vous, c'est vraiment une volonté que ce soit fait en France, quoi.
Ah oui, ça fait partie du cahier des charges initiales de la marque. On a trouvé un seul partenaire qui a accepté de nous suivre là-dessus il y a 20 ans, avec qui on travaille bien évidemment toujours. Et voilà, on peut dire qu'on est la seule marque du secteur des jeux jouets dont tous les produits sont labellisés Origine France Garantie. Aujourd'hui, ça fait une vraie différence à l'époque où il y a l'émergence des consommateurs qui demandent réellement de la production locale, de connaître la provenance de leurs produits. Donc on est vraiment là-dedans, mais nous on a démarré ça il y a 20 ans.
Ok, BAH, c'est quoi comme jeu de moutons en deux mots?
Alors BAH, c'est le nom effectivement qu'on trouve ici en Allemagne, puisqu'on essaie d'être présent sur le marché allemand. Le nom en France, c'est Sauve Mouton, on le trouve déjà dans toutes les bonnes boutiques. Le principe est très simple, c'est un jeu coopératif pour les enfants de 5 ans et plus. Et l'idée, ça se joue autour d'un plateau en 3 dimensions qui représente une montagne. L'idée est d'amener le maximum de moutons en haut de la montagne en évitant le loup. Voilà, on a 2 tuiles sur lesquelles on met les moutons, ceux que l'on a sauvés. Et les moutons qui ont été attrapés par le loup. Et à la fin de la partie, il faut avoir le maximum de moutons sur la tuile sauvée et le minimum sur la tuile, évidemment, prison, qui est la tuile sur laquelle on met les moutons qui ont été attrapés par le loup.
Alors sur la tuile, je vois les moutons, ils sont juste ligotés, quoi. Ils sont pas, c'est pour les enfants, quoi. Ils sont pas encore mangés, quoi.
Exactement. Voilà, c'est une volonté effectivement. Et par contre, tu n'as pas parlé de la tuile où ils sont sauvés, où on voit un petit mouton allongé sur un transat en train de boire une orangeade. C'est plutôt sympa. C'est vrai que nos visuels sont très beaux. Et on apporte une attention très particulière effectivement aux visuels, bien évidemment, quoi.
Ok. Et quel est votre jeu phare, votre premier jeu chez BioViva?
Le tout premier jeu de BioViva, s'appelait BioViva. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Plutôt c'est l'inverse. Cette année, c'est les 20 ans de la marque. On relance le jeu qui a été un carton il y a 20 ans. Il a remporté un tas de prix au niveau international. C'est un jeu très simple où on apprend un maximum de choses sur la nature en s'amusant. C'est sous forme d'épreuves. Il y a 3 types d'épreuves. Une épreuve de questions où on doit deviner effectivement des choses sur la nature en répondant à des questions. La seconde épreuve, c'est une épreuve de géolocalisation. On doit trouver des lieux sur une map monde. Et la troisième épreuve, c'est une épreuve de on doit deviner des animaux grâce à des petites tuiles sur lesquelles sont dessinées des icônes. Donc le jeu a 20 ans. Ça a été un gros carton à l'époque. Il y a une vraie communauté autour de ce jeu. À noter qu'on a un site événementiel où on peut gagner des tas de choses et découvrir le jeu qui s'appelle BioViva 20, le chiffre 20 ans au pluriel ans.com. Je vous invite à aller y faire un tour. Il est en ligne jusqu'au 31 décembre, donc c'est l'occasion de gagner plein de cadeaux.
Ok, ben on ira faire un tour. Et on va parler aussi de Cro-Magnon.
Ouga Ouga, Cro-Magnon, je dois faire rire beaucoup. Oui, c'est là encore, c'est un jeu qui a cartonné lorsqu'on l'a lancé il y a pratiquement 10 ans. L'an prochain, ce sera l'anniversaire de Cro-Magnon. Alors, je vous le dis entre nous, on réserve pas mal de surprises autour de Cro-Magnon l'an prochain. Et c'est un jeu effectivement familial, complètement délirant. Et qui agrège également une vraie communauté autour de BioViva. BioViva a été connu parfois autour de Cro-Magnon. Certains joueurs connaissent Cro-Magnon et ne connaissent pas forcément BioViva.
Ok, d'accord. Et il y a des moutons qui viennent de tomber de la montagne juste à côté de nous. On me parlait aussi des défis nature. Qu'est-ce que c'est les défis nature ?
Alors David, je ne sais pas si tu as des enfants, mais si tu en as, ils t'ont très certainement parlé des défis nature. Les défis nature, c'est une collection de jeux de cartes où l'idée est hyper simple, c'est une bataille. On essaie de remporter la carte de l'adversaire en pariant sur les caractéristiques de son animal. Voilà. L'idée derrière ça, c'est de faire découvrir un maximum d'animaux aux enfants et de les sensibiliser sur les animaux qui sont ou en danger ou en voie d'extinction. On a plus de 26 références dans cette gamme-là, que ce soit Afrique, reptiles, animaux marins. On a également depuis cette année les défis nature des petits pour les enfants à partir de 4 ans et le grand jeu familial, défi nature le grand jeu, qui est l'idée cadeau au top pour les fêtes de fin d'année.
Ok, d'accord. Ben, on va regarder ça, on mettra un lien vers votre site. www.bioviva.com et nous on va se faire une petite partie de bas ou sauve mouton. Merci pour cette interview et à bientôt.
Merci David.
Alors c'est toujours Dédé Chutes en direct de Essen et je suis avec Mathieu, l'auteur de Edenia. Salut Mathieu, ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Ouais, ça va bien. Ça se passe bien Essen ?
Ben oui, écoute, très bien, il y a du monde, les éditeurs français sont toujours bien présents, tout va très bien.
Donc tu sors Edenia, tu peux nous parler un peu du jeu, le principe ?
Oui, alors Edenia en fait c'est une course de moutons dans l'espace, des moutons de l'espace. Ils sont sur leur planète Aridis où il n'y a plus rien à manger, donc ils vont essayer de traverser la galaxie pour aller sur la planète Edenia où pousse le fameux Trifolium qui est un trèfle qui pousse toujours en permanence.
Ok, c'est cool. Moi, chez Proxy Jeux, on sait que je suis spécialiste des jeux de moutons, donc je me suis naturellement intéressé à ce jeu. Donc le principe, c'est un jeu donc d'exploration, c'est ça ?
Voilà, c'est un jeu de course et d'exploration. On va révéler au fur et à mesure du jeu des tuiles où il y a trois différents chemins, et ces chemins vont aller un peu dans les sens où on ne sait pas trop, donc on va progresser, essayer de se diriger petit à petit vers l'objectif. Et on va croiser à travers tout l'espace des mini-planètes où on va pouvoir récupérer des artefacts magiques, des un peu plus grosses planètes où on va pouvoir récupérer un peu d'énergie, croiser des téléporteurs et on va essayer de un peu doubler les autres pour arriver le premier sur la planète Edenia.
Ok, d'accord. C'est ton premier jeu ?
Alors c'est mon premier jeu tout seul, c'est mon deuxième jeu édité. J'avais édité Mancho Barjo avec Bruno Catala chez Bombix au début de l'année. Donc voilà, là c'est mon bébé à moi tout seul, celui-là, et c'est le deuxième.
Ok, d'accord.
Ouais, bah je pense qu'on peut faire un bon clin d'œil à Camille qui est derrière moi, qui a fait un travail d'illustration assez magnifique, je trouve. Voilà, elle a su redonner vie à ces petits moutons de l'espace avec sa touche. Et vraiment, je trouve que le boulot qu'elle a fait est magnifique dessus.
Bah, on va lui demander quelques mots si on peut l'embêter. Et donc, salut Camille.
Salut.
Alors donc, tu as fait les illustrations de Edenia, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Et donc, tu es partie de... C'était les moutons dans l'espace, parce qu'il y a des jolies petites figurines de moutons. Et est-ce que c'est toi qui les as designées aussi, ou ils sont partis de tes dessins ?
Bah en fait on a fait j'ai fait des recherches de moutons, puis on est parti après petit à petit on a peaufiné, puis on est parti sur un design que j'avais dessiné, puis j'ai fait les vues et après il y a une modéliste qui a créé la figurine 3D.
Ok, donc c'est en partant de tes illustrations. C'est moi j'aime bien, c'est assez toon quoi comme dessin quoi. Et donc toi, tu es plutôt... c'est quoi ton dessin ? Tu dessines avec quoi d'habitude ? C'est numérique directement ou...
J'ai souvent une phase crayonnée que je scanne et que après je retravaille en numérique, en effet.
Ouais. Et c'est ton premier jeu illustré ou t'as fait quoi encore ?
Alors, mon tout premier jeu, c'est un jeu en print and play qui a été offert par Bruno Catala. C'est Tong.
Oui, on en a déjà parlé dans nos micros, oui, c'est un très bon jeu aussi.
Et le deuxième, c'est Flip Hop chez Azao Games, qui est, dont le créateur c'est Jean-Claude Pelin. Et puis voilà, pour l'instant, c'est les trois jeux qui sont sortis.
Et tu as d'autres choses en préparation ou pas encore?
Oui, j'ai un jeu chez Ilopeli qui sortira l'année prochaine, et j'ai participé aussi sur un projet chez Yellow qui sortira aussi normalement l'année prochaine. Donc
on retrouvera ton trait bientôt sur nos boîtes de jeux.
Voilà.
Et les dédicaces, ça va? C'est pas trop rapide, ça prend pas trop de temps
Bah c'est, c'était une grande première, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à aller assez vite quand il y a du monde.
Ouais, c'est pas la même chose qu'en studio quand t'es seul devant ta planche, quoi.
Oui, voilà. C'est sûr, ça change.
Ok, ben merci pour cette petite interview à vous deux, et à une prochaine.
À une prochaine, merci bien.
Alors c'est Dédé Schutz, toujours en direct de Essen, et je suis avec plateaujeu.com. Salut.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites chez Plateau de Jeu?
Alors chez plateaujeu.com, d'abord c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, et on s'est spécialisé dans les plateaux et les tapis de jeu un peu exceptionnels, voire exclusifs. Et depuis un an, on a donc créé une marque un peu plus internationale qui s'appelle Wogamat, qu'on présente à Essen. Et là, ce ne sont que des tapis de jeu. Et alors, nos tapis de jeu ont la particularité d'être soit dédiés à des jeux en particulier pour lesquels on va faire des designs qui s'adaptent au jeu. Et là, on fait des tapis compatibles. Et on a toute une gamme de tapis officiels qu'on fait en partenariat avec les éditeurs. Et donc, c'est un tapis qui est adapté à un jeu très particulier et qui est officiel, comme ça peut être le cas du tapis pour Celestia, par exemple.
Donc, c'est vraiment un partenariat avec les éditeurs?
Absolument, un partenariat commercial sous licence, comme on fait une licence avec une marque. Donc évidemment, ils sont rémunérés sur nos ventes, mais nous, on a les designs officiels, les plateaux de jeux qu'on reproduit en très grand, ou des plateaux de jeux exclusifs qui sont plus édités et qu'on peut proposer en tapis. C'est le cas avec Ankama pour les tapis Crossmaster, où on a fait par exemple avec Matago, on a fait un tapis surdimensionné pour Cyclades, par exemple. Voilà.
Ok, d'accord. Et c'est quoi comme tapis? C'est des trucs, c'est de la toile, c'est des tapis de jeu, vous avez plusieurs types?
Alors on a 2 types de matières chez Wogamat. On a un vinyle très technique qu'on trouve sur certaines gammes de nos produits, qui est en fait comparé classiquement à ce qu'on appelle la bâche PVC, parce qu'il y a du PVC dedans, mais en réalité on a un textile en polyéthylène à l'intérieur. Alors c'est pas radiophonique, mais en fait ça permet à la toile de se mettre à plat très très vite. Ceux qui jouent avec ce type de produit savent que souvent ça fait ce qu'on appelle du curling, c'est-à-dire des petites vagues sur les côtés où ça reste rebiqué. Là le nôtre se met complètement à plat, et comme c'est du PVC, on peut le nettoyer, renverser ce qu'on veut dessus, ça craint absolument rien. Et l'autre matière, c'est ce qu'on appelle le jersey néoprène. Ça se rapproche de la matière des tapis de souris, de certains tapis de souris. Il y a une surface en néoprène qui est absolument antidérapante, et un tissu polyester sur le dessus qui est tressé très très fin. C'est pour ça qu'on a ce côté soyeux. On pourrait même l'écouter sur la radio.
Je me rapproche le micro.
Ouais, on l'entend. C'est quand on passe les mains sur le dessus en jersey. Et là, c'est une matière qui est très adaptée au jeu de cartes, au lancer de dés, parce qu'il y a du beau rebond, mais pas trop pour les dés. Les cartes glissent très bien et se ramassent très bien. Voilà.
Ok, c'est pratique. Et pour les jeux à licence, c'est vous qui allez les chercher les licences, ou c'est les éditeurs qui viennent à vous? Comment ça se passe?
Alors, ça s'est passé en 2 étapes. La première étape, c'est qu'on est allé voir les éditeurs. Non, la première étape, c'est qu'on a vendu nos propres tapis et qu'on s'est fait une petite réputation sur la qualité de nos tapis. Ça, c'est l'étape 1. Quand cette étape a été passée, on a pu aller voir les éditeurs qui commençaient à avoir entendu parler de nous. Et on leur a dit, voilà, on aimerait faire des beaux tapis comme ça, mais avec vos designs, avec vos plateaux en surdimensionné. À partir de là, les premiers nous ont suivis. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le premier, ça a été Asynchron, ça a été Matago, ça a été Ankama pour Crossmaster. Ceux-là nous ont fait confiance. Et après, du coup, forcément, on fait de la notoriété avec ces marques-là. Et maintenant, c'est les éditeurs qui viennent nous voir pour nouer ce type de partenariat.
Ok, d'accord. Tu as quelque chose à rajouter?
Ben, ma foi, non. Tout se trouve sur plateaujeu.com. La gamme se développe. Il ne faut pas hésiter à venir sur les salons, parce qu'on va être de plus en plus sur les salons, parce qu'on se rend compte que les gens font waouh sur la qualité en salon, et que sur internet c'est toujours difficile de se rendre compte de la qualité. Donc il ne faut pas hésiter à nous chercher sur les salons et à venir toucher la qualité des tapis.
Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant les grands tapis pour Star Wars et Conan. C'est vrai que ça impressionne tout de suite quand on les voit en vrai.
Oui. Et puis alors, on essaye toujours d'avoir ces deux catégories de produits, des tapis très généralistes, comme on a fait cette année pour Essen, des tapis universels qui se jouent avec tous les plateaux, qui apportent juste du confort de matière, un petit compteur de points et des emplacements de cartes. Et là, on parle juste du confort du tapis, et puis des tapis un peu plus haut de gamme et un peu plus délirant, puisqu'on a des très grands formats avec du coup des prix importants, mais c'est du produit prestige, quoi. Donc on essaye toujours d'avoir cette double approche.
C'est quoi la plus grande taille que vous avez
Alors dans la gamme, le plus grand tapis fait 1m80 par 1m20 en un seul morceau. Ça permet de jouer à tous les wargames où on fait...
On peut quasiment le mettre sur le lit et dormir dedans.
C'est trop grand pour un lit, mais on pourrait. C'est très confortable en plus, hein. On peut aussi faire de magnifiques sorties de bain, c'est splendide. Mais voilà, 1m80 par 1m20, c'est le plus grand qu'on propose, mais nos machines nous permettent de faire jusqu'à 2m20 par 1m50. Et on a fait des trucs un peu exceptionnels comme ça, dans ces tailles-là, pour de l'événement, pour les éditeurs.
Ok, d'accord. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. On invite nos auditeurs à aller se rendre sur plateaujeu.com et à venir sur les salons toucher les toiles de jeu.
Merci beaucoup.
À bientôt. Alors c'est Dédé Schutz, toujours en direct d'Essen, et je suis avec Yann. Salut Yann.
Salut Dédé.
Et je suis venu vers toi pour avoir un peu plus d'infos sur Luma, parce qu'on a reçu donc les ludonautes qui nous en ont un peu parlé dans notre dernier épisode. Et donc là, comme à Essen, il y a une jolie jeune femme qui nous a accueillis. On a dit, on voudrait en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler alors de Luma ?
Bah bien sûr, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Alors qu'est-ce que c'est Luma en fait ?
En fait, Luma, c'est un projet, c'est une volonté à la base des Ludonautes qui voulaient absolument monter une nouvelle collection de jeux. Mais ils ne voulaient pas faire juste une collection de jeux. Ils voulaient pas, ils voulaient des jeux plus petits, dans un format un peu plus petit que ce qu'ils ont. Parce que ils ont découvert qu'ils aimaient aussi jouer sur des jeux un peu moins poilus que Discoveries ou ce genre-là. Et les Ludonautes, c'est une famille. Ils ont deux filles et ils jouent beaucoup avec leurs filles, mine de rien. Ils se sont rendus compte que... ils aimaient beaucoup ce genre de jeu et ils avaient vraiment l'envie du coup de lancer leur propre collection dans ce style de jeu.
Ouais, c'est ce qui est chiant quand t'as des enfants après, c'est qu'il faut jouer avec, c'est ça.
Ouais, mais justement le problème c'est que les enfants de gamers, c'est exigeant, c'est-à-dire que tu te retrouves pas à jouer à des jeux nazes, tu vois, tu te retrouves pas à faire des jeux, tu te retrouves pas à faire du Monopoly ou des jeux dégueulasses, non.
Et quand ils commencent à te foutre la pâtée, là, pour l'honneur, c'est pas terrible.
Et moi, je trouve que c'est la classe intégrale quand il y a un gosse de 12 ans qui te bat sur un jeu où toi, t'as passé les plus clairs de ton temps à faire pointer tout le monde pour réfléchir à ton coup. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça juste fabuleux. Et c'est dingue parce que les enfants qui ont été élevés avec une vraie culture ludique ont quand même une belle exigence en matière de gameplay et de visuel. Enfin, tu le sens direct, c'est dingue quand les gosses te disent « Ouais, ce jeu, il me plaît pas ». Il l'a senti, tu vois, il a senti que ça lui plairait pas. Par contre, quand ça le plaît, c'est dingue les ressources mentales qu'il arrive à développer, à amener, à démontrer pour essayer de gagner.
Ouais, ça tourne plus vite chez eux que chez nous. On est un peu trop vieux maintenant.
Souvent, on est rouillé, ouais, un petit peu. Je pense, ouais. Et puis, il y a une vraie envie de gagner, quoi, d'essayer d'y aller. Et ça, c'est fort aussi, quoi. Ils voient pas tout. Je suis pas sûr qu'ils voient complètement l'aspect social que peut-être en vieillissant, on cherche plus. Mais ouais, ils sont là pour la gagne et j'adore ça. Et justement, dans les mondes de Luma, on va essayer, des légendes de Luma, on va essayer d'amener des jeux pour toute la famille, mais une famille gamer, vraiment. C'est-à-dire tu vas pouvoir jouer entre potes, entre deux grosses parties, tu vois, ça va pas être des jeux trop sévères. On va rester sur du 45 minutes, on va rester sur des jeux pas légers, enfin des jeux, comment ? comment dire ça ? C'est des jeux simples
sans être simpliste, non c'est...
Ah bah de toute façon ça c'est sûr, quoi qu'il arrive, parce que sinon ça marche pas, mais on veut des trucs fun aussi à jouer, tu vois, et du coup qui racontent une histoire, parce que le but des légendes de Luma, c'est quand même à la base de raconter une histoire, un déroulement, quelque chose qui se passe. Par exemple là pour le premier jeu, Donc le pitch, c'est que les aventuriers viennent de trouver un message sur un message codé dans une bouteille qui vient d'échouer sur une plage, et ils vont essayer de voir qui a envoyé ce message et comment il a envoyé ce message et pourquoi il a envoyé ce message. Et donc là, on monte une équipe de recherche de héros pour accompagner l'expédition. Et donc en fait, c'est un des personnages des mondes des légendes de Luma qui recrute d'autres personnages pour partir à l'aventure. Et après, les joueurs vont jouer ces personnages qui partent à l'aventure, évidemment. Et donc le premier jeu, c'est le tout début de l'aventure, et le second sera la suite, etc. Et chaque jeu articule la narration. C'est-à-dire que quand il va arriver un événement, tu vas jouer cet événement. Et après, on va raconter via le site web ou via des éléments ce qui se passe entre les jeux, tu vois, pour avoir le déroulement. Mais toi, tu vas jouer avec les jeux, tu vas jouer les actions, des grands événements importants qui se passent. Et après, tu as la possibilité de jouer les jeux comme tu veux. Dans le désordre, tu peux prendre n'importe quel jeu juste parce qu'un soir, tu as envie de faire une petite partie de tel ou tel jeu. Mais si jamais tu veux te faire la grande aventure, ouais, tu peux les jouer les uns derrière les autres et tu vas du coup conserver ton personnage et tu vas avoir des points qui vont se répercuter d'un jeu à l'autre. Ça peut être intéressant.
Ouais, donc un vrai fil rouge entre tous les jeux, quoi.
Ouais, l'idée, c'est de créer une connexion qui soit pas trop tendue pour que chaque jeu, tu sois pas obligé d'avoir la collection complète. Que si t'as envie de te faire plaisir, tu vois, ou s'il y a un jeu qui te pèse pas, tu t'es pas obligé de le prendre, tu vois, parce qu'il va y en avoir pour tous les goûts, vraiment. Hein. Enfin, on se limite à rien niveau méca, parce qu'il faut que nous, ça colle à l'histoire, à ce qu'on veut raconter aussi. Mais ouais, ça, c'est si t'as vraiment envie de faire la totale, le fil rouge peut être vachement intéressant.
Ok. Et donc pour cette collection là, tu m'as montré un visuel. C'est quand même super joli. Vous avez cherché des artistes douces et des gens qu'on connaît dans le milieu du jeu.
Alors c'est pas du tout des gens du milieu du jeu. On voulait justement essayer d'aller chercher un petit peu de chair fraîche, parce que de toute façon les bons illustrateurs dans le milieu du jeu sont des gens très occupés. Et du coup on est allé chercher vers des gens qui Tu trouves ça très beau, moi aussi ça me plaît énormément, et je comprends qu'il y en a à qui ça pourrait ne pas plaire, mais on a essayé de trouver des gens les plus, comment dire, pointus dans ce qui pourrait se faire de représentation graphique de plus idéal pour le produit vraiment qu'on veut faire. Ce qui est dingue par exemple, c'est que c'est la première fois, je crois, dans le jeu de société qu'il y a une création d'une charte graphique et d'un développement graphique sur les personnages, du développement de caractère design, du développement de caractère, de l'écriture même. On est en train d'écrire des dizaines et des dizaines de pages sur l'univers pour exactement caler les caractères des personnages, qu'ils aient tous une raison d'exister, une raison de vivre, et surtout qu'ils vivent au travers des joueurs pendant tout le long. D'ailleurs, on le voit bien avec le test, le test qu'on a actuellement sur le stand, les gens répondent à un petit test de personnalité. Les gens collent à peu près aux personnages par rapport à leur personnalité, quoi. Ça marche assez bien, on les a assez bien ciblés.
Alors moi je suis team chance, hein, pour ceux qui ont fait le test, voilà.
Je crois que c'est une des teams les plus représentées avec Instinct. Team chance, mais ils sont très très cool. Bah, du coup, au niveau du développement, on allait chercher des gens dont c'est vraiment la spécialité, notamment d'anciens collègues, des anciens de Disney ou Blizzard qui sont des développeurs de personnages, vraiment. On n'est pas dans l'aspect purement visuel, on est dans une idée de fond qui est vraiment intéressante. On n'est pas juste dans un rendu graphique qui va être brillant et qui va servir qu'une fois et dont on a besoin pour faire un one-shot. Comme on a besoin d'une certaine maturité d'univers, de création et de consistance, du coup, on a dû vraiment prendre des ténors et je crois que ça porte les fruits du travail qui est en cours.
Ouais, donc oui, sur le stand, on reçoit donc un message codé qu'il faudra décoder par la suite.
Et il faut, en fait, on a un problème avec le message codé. Et j'allais le poster en ligne. C'est qu'il y a un ingénieur hier qui vient me voir et qui me fait oh bah c'est bon, je vous le traduis cette nuit. Et on pensait pas que c'était possible, tu vois. On a appelé, on a dit bon, ok, d'accord, si tu veux. Et il s'appelle, attends, je l'ai là son nom, il s'appelle Nils. Nils, j'étais en train de poster un truc. Je vais ressortir. Nils Söderbeck. Nils Söderbeck. Et ce mec arrive là ce matin et il a tout traduit. Il a tout traduit à la perfection. Et il a, enfin, je veux dire, un soir à Essen, t'as autre chose à faire quand même, normalement. Tu vois, tu joues, nous on s'est dit tranquille, ça va être. Non, il a tout traduit. Il est venu, il a dit bah voilà, j'ai tout traduit. Et alors que normalement, toute la traduction de ces messages qui est nécessaire pour vivre pleinement l'aventure, parce qu'en ligne, il va y avoir plein de trucs à débloquer, tu vois. Il va y avoir des énigmes qui va dire, par exemple, telle ligne à tel endroit du message, il y a un code à rentrer, etc. Enfin, tu vois, c'est assez pointu. Là, le mec, il vient juste de dévoiler une bonne partie du message. Et donc, on vient de lui demander de garder ça secret. Et on ne savait pas trop quoi faire, du coup, avec Cédric. Et on a décidé un truc. C'est une première, mais je pense qu'on va peut-être s'amuser avec ça. Du coup, on vient de lui proposer d'avoir une île dans le monde de Luma qui porte son nom et que ça devienne le maître des énigmes. Parce qu'on n'avait pas défini le personnage. Et c'est un personnage en lui-même, quoi. Le mec, il est venu, enfin... Bonjour, voilà, j'ai traduit le truc. Enfin, je veux dire, t'imagines, je ramène la pierre de Rosette. C'est bon, mec, je t'ai tout fait, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas l'impression de dire qu'on avait la difficulté de la pierre de Rosette, tu vois, mais... Ouais, je trouve ça fort. Il y en a qui s'investissent déjà à ce niveau-là, donc c'est chouette. C'est ce qu'on attend vraiment des joueurs, en fait. C'est qu'ils s'approprient l'univers.
Ouais, bah quand on est gamer tout le temps, quoi. On s'arrête pas.
bien sûr. Et c'est l'idée. L'idée, c'est de fournir du jeu en permanence. C'est-à-dire, les gens... Alors, vous pouvez pas savoir encore parce que vous avez rien vu, mais... Il y a tellement de choses à faire dans chaque jeu, à trouver, à découvrir. Je pense que vous découvrirez jamais tout, en fait. Vraiment, vraiment. Parce qu'on pousse le vice. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur les visuels, rien que sur la boîte de jeu, ça fait plus d'un an. C'est pas qu'on veut que ça soit parfait, c'est qu'on veut qu'il y a à manger, tu vois, pour le cerveau de chacun et que vraiment chacun vive son aventure avec nous, quoi.
On veut essayer et les petites références et tout ça aussi.
Un peu de référentiel, mais le but c'est d'essayer vraiment de, évidemment qu'il y aura du référentiel, mais le but c'est vraiment de créer un produit qui soit vraiment unique en son genre et qui corresponde à des goûts très hétéroclites, à un peu des goûts de chacun, sans être consensuel, tu vois, surtout pas de consensuel.
Ouais, bah ok, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi je trouve que c'est pas mal un univers comme ça, cohérent, créé avant d'avoir, parce que vous avez pas, je crois, pas encore tous les jeux.
On en a quelques-uns. Le problème c'est pas de pas avoir tous les jeux, le problème c'est d'avoir du choix pour les jeux, parce que le choix de lier de raconter une vraie aventure par rapport au système de narration, c'est que t'es obligé de lier les actions qu'on va faire jouer par les joueurs racontent une partie de l'aventure, un bout de chapitre de l'aventure. Donc t'es obligé à chaque fois de faire de retailler un petit peu l'histoire pour que ça colle au jeu et de retailler un peu le jeu pour que ça colle à l'histoire, tu vois. Et du coup, c'est très compliqué de trouver des jeux qui collent exactement à l'histoire telle qu'on voudrait éventuellement l'amener. Donc on se permet du coup de tordre un peu l'histoire pour l'amener un peu sur des sentiers. Ça ne change pas grand-chose, tu vois, mais du coup, il y a une certaine élasticité dans l'histoire, dans la narration, qui nous permet du coup de profiter de ça.
Bah, c'est de l'exploration. On ne sait pas sur quoi on va tomber, en fait.
Ouais, exact. C'est un peu ça. Mais au niveau du jeu, on veut pas que les joueurs aient l'impression qu'on ait cousu ça au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on a besoin. Là, par exemple, on a le premier jeu, le deuxième jeu, et on a sans doute le dernier, tu vois. Donc on a des liaisons à prévoir grave en avance sur les jeux précédents.
Ok, bah je sais pas si t'as autre chose à rajouter.
Non, pas plus que ça, à part que si, bah le coût des passeports, quoi.
Ah oui, le coût des passeports, parce qu'on a, si on s'inscrit, on a un passeport. Et le passeport, ça va nous servir à quoi ? On va pouvoir voyager ?
Ouais, l'idée c'est de faire voyager les joueurs de boutique en boutique, de boutique en boutique et de salon en salon. L'idée, c'est que chacun va recevoir un passeport unique, avec un code unique, qu'il faudra essayer de ne pas perdre. Hein. On verra après s'il y a des besoins de remplacement. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez dans une boutique partenaire en tout cas, il va y en avoir beaucoup en France, c'est en Belgique, en Allemagne, etc. Ce passeport, vous êtes joueur, vous arrivez en voyage ou de passage dans un endroit où il y a une de ces boutiques, vous allez dans la boutique, vous récupérez un tampon. Selon les tampons que vous récupérez, leur rareté, par exemple celui d'Essen 2016, il était que pour Essen 2016, donc il n'y aura que les gens d'Essen 2016 qui pourront avoir certains goodies.
Ah, c'est cool, je l'ai celui-là.
Et donc les tampons, selon leur nombre et selon d'où ils proviennent, etc. et tout, vont vous permettre de débloquer des goodies, que ce soit des goodies réels hein, ou des goodies en ligne, hein, par rapport au site web, et par rapport à la narration, de découvrir de nouvelles choses et de s'approprier le monde de Luma.
Ok, c'est cool, c'est un peu comme les Pokémon, en fait, faut voyager pour aller trouver.
Ouais, sauf là, faut voyager beaucoup de boutique en boutique, ça va être compliqué au bout d'un moment. Ouais. D'ailleurs, celui qui aura tous les tampons, on pourra lui construire un temple, à mon avis, parce qu'il faudra vraiment qu'il fasse le tour du monde ludique. Mais ouais, c'est plutôt chouette, puis ça permet surtout aussi de rendre l'appareil aux boutiques. Les boutiquiers qui tiennent une place extrêmement importante dans le marché du jeu de société, qui sont là même, parce que c'est eux qui vendent, qui choisissent, qui mettent en rayon, qui expliquent les jeux et qui doivent nous faire confiance. et auxquels les joueurs doivent parfois se rattacher. C'est une histoire de confiance commune qui est vachement importante. On tient à remercier, avec le système de passeport, toute cette chaîne de confiance, justement, du début à la fin, d'envoyer les joueurs faire les boutiques, à découvrir de nouvelles boutiques, et d'envoyer les boutiques à proposer des animations intéressantes.
Ok, bah c'est cool ça, on va aller voyager un petit peu alors. On va voyager donc sur l'île de Luma.
Oui, le monde de Luma en fait.
Le monde de Luma.
Si tu as bien remarqué le logo, tu le retournes, il est à l'envers comme à l'endroit où il se lit, parce que c'est un monde qui est à l'envers d'une autre. Mais ça, vous apprendrez très bientôt.
Pas de spoiler encore.
Non, c'est à peine un spoiler, mais il y a une vraie grande histoire dedans, vraiment.
Ok.
Pour ceux qui seront s'y intéresser, bien sûr.
Ok, bah merci, merci pour toutes ces infos.
Ben, merci à toi.
On te laisse donc retourner travailler un petit peu. Et à une prochaine.
Bah, avec plaisir, on vous tiendra au courant de toute façon.